Accent d'Europe, Catherine Roland.
Le général Franco triomphe à Séville, le général Mola à Burgos et en Navarre. Et tout de suite, la lutte prend un caractère acharné. Une première offensive contre Madrid échoue devant San Rafael au début d'août.
Bonjour à tous. Le passé franquiste toujours bien présent en Espagne. Difficile de tourner la page alors que le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy bloque toujours les aides pour la récupération de la mémoire. Des initiatives individuelles cherchent donc à donner une dignité à toutes les victimes du franquisme. La maire socialiste de Talavera en Estrémadour rend un dernier hommage à celui qui avait gouverné sa petite ville et qui fut fusillé en 1936. C'est aussi pour elle, Belén Blanco, l'occasion de défendre les valeurs de la démocratie alors qu'une autre crise mine l'Espagne, à savoir le défi indépendantiste catalan. Diane Cambon.
Il aura fallu attendre 40 ans de démocratie pour que soit rendu un hommage au maire socialiste de Talavera, un petit village au nord de la province de Cáceres. Anastasio Arroyo fut abattu au début de la guerre civile, le 18 août 1936, par les franquistes, puis jeté dans une fosse à quelques kilomètres de chez lui, comme l'explique Belén Blanco, la maire de cette bourgade qui dirige la cérémonie.
Selon des témoignages de villageois, Anastasio aurait été enchaîné à la grille de la fenêtre du médecin durant toute la journée, sous un soleil de plomb. Puis avec d'autres garçons, ils les ont embarqués dans un fourgon, soi-disant pour les amener au pénitencier de Mérida. Mais ils n'ont jamais été plus loin que le village d'à côté. On les a alors obligés à descendre du camion, puis on les a exécutés. Mais avant, ils ont dû creuser leur propre tombe.
Ému, les neveux d'Anastasio, aujourd'hui âgés de 70 ans, se sont réunis avec une poignée de villageois pour dévoiler la plaque en l'honneur de cet oncle, dont le souvenir a marqué toute la famille. La mère se désole du peu d'affluence.
Regardez autour de vous, nous sommes dans un village de 300 personnes et nous sommes à peine 40 et plus de la moitié viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas venus, non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils ne veulent pas remuer le passé.
Un passé très lourd qui n'a toujours pas été digéré. L'Espagne compte encore 2380 fosses communes non identifiées où gisent les victimes du franquisme. Depuis 2000, date de la première exhumation, seulement 350 fosses ont pu être localisées. L'absence de subventions de la part du gouvernement conservateur a freiné les efforts pour récupérer la mémoire historique. Alors même que dans les villages, les fantômes de la guerre civile hantent encore les esprits, et en particulier ceux des personnes âgées. Josefina, âgée de 89 ans, trottine d'un pas léger vers la plaque récemment dévoilée.
C'est un peu tard en effet cette plaque, mais c'est bien que cela sorte au grand jour. Et ceux qui ont commis ce crime doivent le payer. Ils doivent aussi répondre de tout le mal infligé aux vivants, car se sentir méprisé par le reste du village, c'est très dur. Les séquelles de la guerre ont été très fortes. Ici, c'était la loi du plus fort qui a régné tout ce temps.
Asunción, une nièce d'Anastasio, n'a jamais pardonné ce crime impuni. Pour sa famille, Talavera reste un lieu proscrit.
Nous ne venons jamais ici à Talavera et pourtant c'est là que nous avons nos racines et on vit dans le village d'à côté, à Losar. Je me mets souvent dans la peau de mes cousins comme Antonio et de ceux qui sont restés ici. Eh bien moi, je n'aurais pas pu y vivre. Ils l'ont tué par pure jalousie. Mon oncle était très bon, mais il était socialiste.
Pour la mère qui appartient au Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, c'était un devoir de rendre cet hommage pour ne pas laisser s'installer à jamais l'impunité. Mais aussi pour défendre la démocratie qui, depuis la crise catalane, a montré des signes de fragilité. Elle reproche notamment aux indépendantistes d'utiliser à tort et à travers des termes datant de la dictature. Taxé de franquiste, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy n'a pas de sens pour elle, même si elle rejette avec force sa politique.
Je crois que les indépendantistes tiennent un discours totalement décalé. Oui, il y a sans doute encore des personnes qui ont des idées ancrées dans le passé, mais cela fait bien longtemps que c'est fini, cette époque-là. Et on est aujourd'hui dans un état de droit où il faut respecter les lois et la Constitution. C'est tout.
D'autres, comme Aitor, un des 5 jeunes de 30 ans présents à la cérémonie, dénoncent également la tension créée par les indépendantistes catalans, même si pour lui, la démocratie espagnole n'est pas idéal et doit être amélioré.
Je remets beaucoup en question la démocratie que nous avons aujourd'hui. Mais les comparaisons des indépendantistes avec le passé me semblent une mauvaise logique. Ils tiennent ce discours par pur jeu politique, mais on vit à une autre époque. C'est vrai que la transition aurait pu être mieux faite et il y a encore beaucoup de choses à condamner et d'autres qui sont encore enterrées, comme on peut le voir aujourd'hui.
L'Espagne n'en finit pas de régler ses comptes avec un passé encombrant qui, à la moindre crise, ressurgit sur le devant de la scène. Pour beaucoup, une actualisation de la Constitution élaborée au sortir de la dictature aiderait à fermer certaines plaies du passé.
Autre travail de mémoire, difficile et douloureux car encore très récent. Samedi, le Kosovo commémorera le 10e anniversaire de son indépendance, mais dans la division. Voilà bientôt 10 ans que les armes se sont tues, mais les mémoires de guerre s'opposent. Les Albanais la présentent comme le mythe fondateur de leur pays, tandis que les Serbes considèrent toujours Belgrade comme leur capitale. Et c'est dans ce contexte que vient d'ouvrir le centre de documentation sur les crimes de guerre, en plein centre de la capitale, Pristina. Une initiative qui veut encourager la formation d'une histoire partagée, condition essentielle à la réconciliation. Simon Rico s'y est rendu.
Nous sommes au sous-sol de la bibliothèque municipale de Pristina, dans le centre de documentation sur les crimes de guerre. Sur les nombreux écrans plats accrochés au mur, défilent des images de combats et de procès. Cette exposition permanente donne à voir comment le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a enquêté sur les crimes commis au Kosovo pendant la guerre de 1998-99. La juriste Lorraine Gruson a supervisé ce projet pendant plus de 2 ans.
Les procès qui ont lieu au TPY à La Haye ont été quand même très peu communiqués sur le terrain. Les gens, et notamment les jeunes, n'ont pas connaissance en fait, ni des procès en eux-mêmes, ni de leur verdict, ni de la façon dont le tribunal a sélectionné les cas, pourquoi il n'y en a eu que 5 et quels ont été les jugements rendus. Avec un objectif de réconciliation, de par une mémoire commune en fait, basée sur ces faits établis par le tribunal, qui forment en réalité un peu la seule base factuelle sur laquelle pourraient s'entendre toutes les communautés au Kosovo.
2 décennies bientôt après la fin des combats, le Kosovo est toujours placé sous tutelle internationale. Fin 2008, juste après la déclaration unilatérale d'indépendance, la mission européenne EULEX a repris le mandat de la MINUC, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, avec l'objectif d'établir l'état de droit, un préalable à la réconciliation. Pour parvenir à ces objectifs ambitieux, EULEX compte notamment sur le travail mené par la société civile. Bekim Blakaj dirige l'antenne kosovare du Fonds pour le droit humanitaire, une ONG basée à Belgrade qui se bat courageusement pour que la lumière soit faite sur les crimes de guerre.
À dire vrai, la mission de notre organisation, c'est d'aider la société du Kosovo à affronter son passé. Comment agissons-nous ? Nous supervisons les procès pour crimes de guerre, nous informons sur ces processus et nous recensons toutes les victimes en les identifiant par leur nom et prénom et les conditions de leur mort. En faisant cela, nous voulons créer une mémoire commune, au plus près de la vérité.
Le Fonds pour le droit humanitaire s'est beaucoup investi dans la réalisation du centre de documentation sur les crimes de guerre. Ouvert à l'automne dernier, cet espace peine néanmoins à trouver son public. Dans la bibliothèque, personne ne semble vraiment faire attention à la ligne tracée au sol pour guider le public vers l'entrée. Elira étudie l'architecture, elle vient souvent travailler à la bibliothèque, mais elle n'a jamais été voir l'exposition au sous-sol.
Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si ça parle de la guerre du Kosovo, de l'histoire, bien sûr, je serais intéressée, parce qu'avant, j'étais dans les sciences humaines. Pour moi, c'est vraiment important, à cause de ce que nous avons vécu avant et après la guerre. Maintenant, nous avons des droits, nous sommes un peuple libre et indépendant. Nous ne sommes plus opprimés par d'autres pays, c'est vraiment une bonne chose.
Ce projet visant à promouvoir une mémoire commune de la guerre s'inscrit dans le cadre de l'initiative RECOM. Cette commission régionale, lancée en 2011, a pour ambition d'établir les faits relatifs à tous les crimes de guerre commis dans l'ancienne Yougoslavie. Malgré un vaste soutien populaire, plus d'un demi-million de citoyens des Balkans ont signé la pétition en faveur de son ouverture. RECOM a bien du mal à se faire entendre du côté des autorités. acceptée. Voilà qui n'empêche pas Bekim Blakaï de continuer son combat en faveur d'une paix durable et partagée.
L'initiative RECOM est le mécanisme le plus sérieux pour avoir une chance d'établir les faits concernant les crimes de guerre et toutes les violations les plus graves des droits humains. En convainquant les pays de la nécessité de soutenir cette commission, nous contribuerons à atteindre la vérité. Une fois que la vérité est reconnue, elle constitue le socle de la réconciliation.
Une redoutable épée de Damoclès plane au-dessus des dirigeants albanais au moment où Pristina s'apprête à fêter les 10 ans de son indépendance. Une nouvelle cour spéciale, délocalisée à La Haye, composée uniquement de juges internationaux mais placée sous la juridiction de Pristina, doit bientôt ouvrir. Ce tribunal aura la lourde tâche de juger les crimes de guerre commis par l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, entre 1998 et 2000. Voilà qui risque d'écorner le mythe de la guerre juste sur lequel s'est construit le plus jeune État du continent européen. Mais en éclaircissant les zones d'ombre du conflit, la Cour spéciale permettra peut-être d'en finir avec les rumeurs instrumentalisées par les différentes communautés.
Les journalistes tchèques peuvent se faire quelques cheveux blancs. Il ne fait pas bon exercer leur profession en ce moment au pays de Miloš Zeman. En témoignent les histoires de pugilat dans le centre de presse après la réélection du président, les attaques personnelles formulées par le Premier ministre ou encore l'audiovisuel public pris à la gorge. Alexis Rosenzweig nous appelle de Prague.
Reporters sans frontières a officiellement dénoncé les violences qui ont émaillé la célébration de la victoire du président sortant au dernier scrutin fin janvier. Des coups portés notamment au visage d'un caméraman et aucune réaction ni excuse de l'entourage d'un chef de l'État connu pour son mépris de la profession. Pour Miloš Zeman, les journalistes sont une espèce à intelligence réduite qu'il faudrait d'ailleurs liquider. C'était en tout cas la conclusion de sa malencontreuse blague susurré devant les caméras à l'oreille d'un Vladimir Poutine un peu gêné, mais qui répond qu'il suffit juste de limiter leur nombre. Les sorties du président tchèque contre la presse ne sont pas nouvelles, mais elles inquiètent d'autant plus aujourd'hui que le secteur est, comme ailleurs dans le monde, économiquement fragile et menacé dans ses fondements, avec une indépendance très difficile à maintenir. Une des particularités nationales est l'appartenance des deux plus grands quotidiens ainsi que des sites internet et une radio au groupe industriel fondé par l'actuel Premier ministre, le milliardaire Andrei Babich. Et lui non plus n'est pas du genre à ménager la presse, quitte à porter des attaques personnelles quand il est sur la défensive. Lors d'une récente prise de parole, il a diffamé la mère d'une journaliste dont la question lui a déplu. Ses excuses n'ont pas dissipé le malaise. Un malaise qui grandit également entre ceux qui acceptent de travailler dans les médias qui lui appartiennent et les autres, avec une certaine animosité dans les débats au sein du service public aussi. La rédaction de la Radio Nationale est secouée par des tensions autour justement du traitement des dossiers liés aux affaires du chef du gouvernement. Quant à la télévision publique, son présentateur vedette estime qu'elle subit actuellement une pression politique telle que la jeune démocratie tchèque pourrait à terme être menacée. Václav Moravec appelle les journalistes à davantage se défendre pour ne pas tomber dans le piège de certaines nouvelles chaînes télévisées privées où les débats politiques ressemblent à des parodies.
Le 30 janvier dernier, les personnels des centres hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les fameux EHPAD, se sont mis en grève dans toute la France pour dire leur fatigue et leur colère face à la détérioration de leurs conditions de travail. Comme partout sur le vieux continent, la population âgée augmente, comme la demande de prise en charge, mais l'insuffisance des effectifs entraîne une dégradation des soins prodigués qui frise parfois la maltraitance. La question de la vieillesse et de la dépendance est devenue dans toute l'Europe un sujet majeur. Alors, la France traite-t-elle plus mal les personnes âgées que ses voisins? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Catherine.
D'abord Daniel, combien de personnes âgées sont dépendantes?
En France, sur plus de 12 millions de personnes âgées de plus de 65 ans, 2 à 3 millions sont considérées comme dépendantes à des degrés divers. Sur ce nombre, 1,3 million perçoivent une allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, et environ 730 000 sont hébergés dans des établissements pour personnes âgées, qui peuvent être de simples foyers d'accueil ou des établissements hospitaliers pour personnes âgées, les fameux EHPAD ou encore des unités de soins de longue durée dans les hôpitaux. Toutes ces unités de soins à long terme accueillent environ 6% de la population française âgée de plus de 65 ans, majoritairement des femmes.
Et retrouve-t-on cette proportion de personnes dépendantes à l'hôpital ailleurs en Europe ?
Pas forcément. Il se trouve que plusieurs pays, en particulier l'Allemagne ou la Scandinavie, privilégient beaucoup les soins à domicile. Cela dit, en matière de nombre de personnes âgées hébergées, la France tient une position médiane. Certains pays hospitalisent plus, 7 à 8% des plus de 65 ans en Belgique, Suisse ou Pays-Bas. D'autres moins, autour de 4% comme au Royaume-Uni ou en Allemagne.
Les capacités d'accueil sont-elles vraiment à la hauteur ?
Si l'on considère le nombre de lits en soins longue durée pour 1000 habitants de plus de 65 ans, la France se place avec 56 lits pour 1000, un peu devant l'Allemagne et assez nettement devant le Royaume-Uni, l'Espagne et même le Danemark, qui tourne autour de 47 lits pour 1000. En revanche, les capacités de la plupart des pays du Nord sont bien supérieures à celles de la France. La Belgique atteint ainsi 72 lits pour 1000 et les Pays-Bas 87. Cela dit, la France n'a pas tellement de problèmes de capacité d'accueil en termes d'hébergement et de lits. En revanche, les personnels soignants et aidants disponibles y sont en sous-nombre.
C'est donc, Daniel, un problème d'effectif chez nous.
En partie, oui. Pour 100 Français de plus de 65 ans, on compte 3,5 employés du secteur des soins longue durée. C'est mieux que dans les pays du Sud, mais c'est beaucoup moins bien qu'au Royaume-Uni, au Danemark ou en Finlande, où le ratio dépasse 6%. Et l'on est très très loin des près de 10 employés pour 100 habitants de la Suède. Si l'on compare le nombre d'employés par rapport au nombre de résidents dans les EHPAD français, on est à moins de 60 employés pour 100 résidents en France. En Allemagne, il y a un employé pour un résident. La différence est donc très significative. Et le sous-effectif français est aggravé par le fait que l'application des 35 heures a beaucoup désorganisé le fonctionnement de l'hôpital, dont certains personnels pouvaient prétendre à 30 jours de RTT par an. Depuis deux ans, les accords d'établissement se sont multipliés, mais les conséquences se font encore sentir. Enfin, le personnel hospitalier est lourdement accaparé par les tâches administratives.
Sous-effectif en France, est-ce que les budgets de leur côté sont suffisants ?
La France dépense 9 milliards d'euros par an pour ses établissements d'hébergement de personnes âgées et environ 35 milliards pour tout ce qui touche à la dépendance, soit 1,7% de son PIB. C'est un peu plus qu'au Royaume-Uni, 1,5%, ou en Allemagne, 1,3%, et nettement plus que dans les pays du Sud. Mais là aussi, les pays scandinaves font beaucoup mieux. La Suède consacre en même plus de 3% de son produit national à la dépendance. Pas étonnant qu'au nord de l'Europe, les résidents âgés soient si bien lotis.
Le séjour en EHPAD est-il vraiment coûteux pour les personnes âgées ?
En France, on peut dire qu'il est très onéreux. Le forfait hébergement auquel s'ajoute le forfait dépendance coûte, selon les établissements, de 2000 à 3300 euros par mois et parfois plus. Si l'on déduit l'APA dont bénéficient beaucoup de gens, le reste à charge moyen tourne autour de 2500 euros, ce qui excède de beaucoup les capacités financières d'une grande majorité de retraités. Les familles sont donc mises largement à contribution, d'où le débat récurrent sur l'ajout d'un nouveau pilier dépendance intégré au système de sécurité sociale. Une telle assurance dépendance obligatoire existe déjà aux Pays-Bas et en Allemagne, où elle allège de moitié les charges d'hébergement et d'assistance pour les familles. En Suède et au Danemark, l'État prend en charge l'essentiel des dépenses, tandis qu'en Finlande, la contribution personnelle est limitée à 85% des revenus du résident retraité, le reste étant pris en charge par les communes. Enfin, en Angleterre, les soins personnels autres qu'infirmiers sont pris en charge sous conditions de ressources, mais en Écosse, la prise en charge est automatique et intégrale.
On peut dire alors que la comparaison n'est pas à l'avantage de l'Hexagone.
Non, les conditions d'hébergement y sont correctes et les soins médicaux de qualité. Mais l'accompagnement des personnes âgées et leurs conditions de vie y sont plus que médiocres, sans compter que l'addition est très douloureuse pour les résidents et leurs familles.
Daniel Vigneron de MyEurope.info, à la semaine prochaine Daniel.
À bientôt Catherine.
Accent d'Europe, c'est fini. Jusqu'à demain, la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants journal.